Bienvenue sur Double Flash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Double Slash, épisode spécial. On va parler de PaaS avec Alex. Salut Alex, comment ça va?
Salut Patrick, salut tout le monde. Moi je suis super content de parler de PaaS.
Alors de PaaS, on va définir ce que c'est un PaaS pour ceux qui ne sont pas trop encore au courant. En fait, aujourd'hui, pour résumer un peu l'épisode, aujourd'hui pour déployer une application, que ce soit du PHP, du JS ou n'importe quoi, du Next, du Nux, tout ça, on a une facilité qui est la possibilité de déployer directement sur du Vercel, Netlify, tous ces outils en fait qui sont en ligne. C'est hyper pratique. C'est hyper simple, c'est souvent, il suffit de brancher son GitHub, machin, et ça se déploie automatiquement, donc ça c'est super, seulement derrière, il faut passer à la caisse à un moment donné, et donc on va parler de tout ça, et on va parler surtout d'une solution qui permet de self-hoster, d'auto-héberger, si on parle en français, ces applications, et de gérer soi-même tout ça, mais sans que ça soit trop compliqué, que ça soit entre les deux, que ça reste assez accessible et simple, et
exactement, exactement. En fait, les PaaS, donc ces plateformes as a service, pour ceux qui ont déjà connu l'épisode où justement on expliquait en fait toutes les différences entre gérer nous-mêmes nos serveurs, utiliser les plateformes as a service, on a un épisode où justement on aborde toutes ces possibilités, tout le choix qu'on a en tant que développeur quand on veut déployer nos applications. Et c'est vrai que la solution la plus facile, donc c'est les PaaS, les plateformes as a service. Ce qui nous évite de mettre les mains dans le terminal et de gérer tout le déploiement. La solution en fait nous donne une interface graphique et en trois clics, on choisit notre repo et on clique dessus et ça marche automatiquement. Néanmoins, il y a quand même des limitations à ça. Surtout, en fait, moi, ce que je vois, c'est que les business models ont un peu évolué. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu te rappelles, mais Heroku, avant, il y avait une offre gratuite.
Ouais, tout le monde s'en rappelle. Surtout ceux qui ont dû migrer rapidement.
c'est exactement ça. Et en fait, c'était super bien, sauf que ce free tier, il s'est un petit peu effrité.
Ouais, c'était top.
Et surtout, en fait, ils ont changé leur business model. Je pense à Netlify ou à Netflix, Netlify ou Vercel, pardon. Ils sont passés au siège. En clair, dans ta team ou dans ton organisation, que tu veux utiliser un utilisateur, deux utilisateurs, trois utilisateurs, eux, leur business model, c'est de dire tu vas payer l'utilisateur. Ah, ok, ouais. Donc ça coûte souvent, c'est 20 balles par tête. Ah, d'accord.
Quand même.
mais j'ai plus de machines. Ah non, la machine, c'est en plus. Ah, d'accord. Netlify ou Vercel, c'est plutôt pour les applis plutôt front, parce qu'ils ont des CDN, même si aujourd'hui, tu vas pouvoir déployer du serverless parce qu'ils utilisent une techno qui n'est qu'une surcouche d'AWS, hein, que les choses soient claires. Mais tu peux faire comme c'est plus des projets quand même orientés front ou avec du serverless. Néanmoins, si tu as une appli Django en Python ou Symfony, Laravel, tu vas te tourner vers d'autres opérateurs. Je pense à Render, Scaleway, Scalingo. Des plateformes as a service qui vont te faire ça. Donc, tu as des micro-projets. Pour des micro-projets, ça marche plutôt bien. Tu vas avoir des petites instances. Par contre, dès que tu vas passer at scale, ça va vite coûter très, 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 très cher.
Ouais, c'est clair, parce que c'est des services qui ont... Alors maintenant, quand on parle de Vercel, tout ça, c'est des services qui existent depuis un moment. Hein, et c'est vrai qu'au début, c'était super accessible. C'était gratuit quasiment, Netlify aussi. Et c'est normal, puisqu'ils essayaient de nous faire accrocher au service et nous rendre un petit peu dépendants au truc. Quoi. C'est un peu la première dose, tu vois.
ouais, c'est un peu ça, mais c'est complètement ça.
Et c'est vrai que finalement, petit à petit, ils ont été obligés d'augmenter leur prix, tout ça, parce que ça coûte cher, l'infrastructure, tout ça. Il faut payer des salaires, tout ça. Et c'est vrai que petit à petit, ça devient de plus en plus cher. Et puis, il y a un autre côté aussi, c'est que c'est US, souvent. C'est américain.
Et oui. Donc tu bascules en fait dans la législation où tu payes en dollars et machin, donc t'es régulé par le droit américain. Donc les Américains ont réussi à faire leur extraterritorialité l'extension de leur, extension de leur territoire via la monnaie. Donc voilà, on bascule sous
la manière américaine.
Exactement. Sauf que bah ouais, mais nous on se dit attends, c'est pas grave, on va déployer notre propre solution. Sauf que là on bascule tout de suite gérer nos dans nos propres machines tout de suite, ça peut être assez compliqué et on va dire pour un développeur simple que nous sommes, voilà, bah parfois c'est un petit peu c'est même super compliqué.
On peut même dire que c'est souvent très très, ça peut manger beaucoup de temps en fait, parce que tu peux passer beaucoup de temps sur un petit truc comme mettre un certificat, t'arrives pas à le mettre, tu comprends pas, tu peux passer 2-3 heures à chercher, à comprendre pourquoi machin. C'est énergivore en fait, et c'est assez fou en fait. Il faut aimer ça en fait.
Exactement. Et on en avait parlé dans un épisode justement de news où on voyait que ce service qui s'appelle Coolify nous faisait une belle promesse. Et la promesse qui est annoncée en fait, c'est de dire « Ok, tu prends ton serveur que tu achètes, donc au prix d'une machine classique, et tu vas mettre Coolify dessus. Et en fait, tu vas installer Coolify qui est open source, et tu vas pouvoir en fait gérer toutes tes applications comme si tu avais un Heroku ou un Netlify ou un Vercel. Mais donc tu as une interface graphique et tu vas piloter tes applications de la même manière que sur ces plateformes-là. Sauf que tu es sur ton propre serveur, que tu as payé le prix de ton serveur, donc ça coûte pas cher par rapport à la puissance que tu as. Sauf que tu as toute l'expérience en fait d'interaction graphique avec toutes ces applications. Et c'est là où on se dit, ouais, là, peut-être, on est à la croisée des mondes. Et pour le coup, moi, je le teste depuis 6 mois en production et je suis complètement fan de ça, quoi.
Ouais, en plus, toi, c'est un truc qu'on avait suivi depuis... Enfin, ça fait un petit moment qu'il avait été lancé. On l'a suivi depuis le début. Toi, tu l'avais testé dès le début, en fait, hein, où c'était encore en bêta, entre guillemets. Ouais. T'as bien suivi le truc en fait.
C'était buggé, j'avais des systèmes qui marchaient pas, parfois ça frisait, tout. C'était très très très, on va dire, early stage à l'époque où je l'avais testé. Je crois que depuis qu'ils sont passés sur une version 4 ou un truc comme ça, même si c'est encore en bêta, mais ils poussent, voilà, il y a beaucoup plus de stabilité. À savoir que c'est quand même poussé par... c'est maintenu initialement par un mec qui s'appelle... je ne sais plus exactement...
Un mec qui habite au Nebraska, là-bas, tout seul.
Non, pas du tout. Non. C'est
des fois, c'est comme ça.
C'est un Hongrois. Il habite en Hongrie. András Bacsay ou Bacsay. Désolé pour la prononciation. Pour le coup, il porte vraiment le projet, même s'il y a d'autres personnes qui viennent collaborer sur ce projet. Donc, c'est totalement open source. Et donc, ça, en fait, ça amène quand même une certaine crédibilité et une maturité. Et le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir le déployer sur n'importe quel opérateur. Donc, que vous soyez chez Scaleway, vous achetez votre machine. Donc, soit vous mettez votre propre serveur dans votre garage, mais...
Ça se fait encore ça.
Ne faites pas ça, s'il vous plaît, ne faites pas ça. Soit vous prenez un VPS. Alors pour le coup, vous n'êtes pas obligé de. Enfin, ne prenez pas une toute petite instance sur un Digital Ocean ou un Linode ou que, comme ça. Voilà, mettez un minimum de puissance. De toute façon, dans la doc, ils recommandent un minimum. Mais voilà, si vous mettez une machine à 20 balles, ça suffit largement pour en fait déployer et installer Coolify dessus.
Là, tu parles de la partie Coolify. J'installe Coolify et j'ai pas encore installé de serveur branché à Coolify.
Exactement. Et ouais. Tu fais bien de bien différencier le truc, c'est que il y a sur ta machine, donc ton moteur, tu vas installer Coolify directement via une commande SSH. Tu peux pas faire plus simple en termes d'installation, quoi. C'est tu te connectes via ton terminal à ta machine, tu lances cette fonction et chaque boom, ça t'installe tout et ça te crée ton interface graphique avec ton admin, ce qui fait que toi derrière après tu changes ton admin et tu vas pouvoir en fait piloter après ta machine.
Et c'est la partie self-hosté. J'auto-héberge Coolify.
Ouais,
ça c'est ce que tu fais toi depuis quelques mois.
Oui.
Donc ça veut dire que tu dois te taper quand même les mises à jour, tout ça, machin. Enfin, je sais pas si y en a souvent, mais voilà.
Exact. Alors oui, parce que il y a beaucoup de releases, ils poussent tout le temps et en fait ils buildent tout en public. Enfin, il est dans le délire build in public, c'est-à-dire voilà, c'est quasiment tous les jours ou toutes les semaines, allez, on va dire, tu as une release et donc soit tu fais une auto-update. Voilà. Soit depuis ton interface, tu fais cliquer pour updater. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ton instance de Coolify, elle est sur ta machine. Et donc, sur ta machine, tu vas faire le build de tes applications et le run de tes applications.
Okay.
Donc, ce qui veut dire que tu as une concentration des pouvoirs qui est assez forte.
Voilà. Donc ça, la version self-hostée, et il y a aussi une version cloud que moi j'ai testé parce que je suis un gros feignant et qui est plutôt intéressant. Tout là c'est lui qui gère totalement l'instance de Coolify et tout ça, t'as juste à payer en fait.
Exactement. Et en fait, tu vois, sur un peu le délire, c'est en tant que développeur, tu viens avec ton propre matos. Et ben là, en fait, c'est exactement le même délire, c'est tu viens avec ton propre serveur. Et donc, Coolify Cloud, c'est juste l'instance de Coolify qui va être gérée dans le cloud de Coolify Cloud. Et en fait, toi, tu vas venir brancher tes serveurs, donc tes machines, et le pilotage de ces machines, en fait, va se faire à distance. Ce qui fait que tu viens différencier ton instance de Coolify de ta machine de build et de prod. Et donc, c'est super intéressant. Et tu as même une feature qu'ils sont en train de développer où tu pourras builder sur un serveur et run sur un autre serveur physique. Et donc là, tu viens vraiment différencier et ce qui te permet en fait de vraiment bien séparer les pouvoirs et les responsabilités, quoi.
Bon, alors on va résumer déjà le début. Ouais. Donc Coolify, c'est quelque chose qu'on soit on héberge, donc en prenant un serveur où tu veux, tu l'installes, soit on utilise le cloud. Et cloud, évidemment, c'est payant pour un tarif plutôt modique pour l'instant, je trouve. Après, je ne sais pas si ça va augmenter dans le futur, mais pour l'instant, c'est $5 et tu as un serveur.
C'est que dalle. Non, tu peux même mettre. En fait, tu peux mettre deux serveurs. Tu peux mettre deux serveurs et après, si tu veux brancher un troisième serveur, bah, tu payes un frais additionnel par serveur.
Voilà.
Donc, mais déjà, si tu veux un truc tip top, tu mets deux machines, donc deux serveurs que tu as hébergés chez qui tu veux, Esner, Digital Ocean, MyWS, et tu fais ton load balancing. Donc, tu as acheté un load balancer, ça coûte 10 balles ou 15 balles, machin, et tout ton déploiement, tu le fais sur les deux serveurs et c'est méga propre, quoi.
Et, on va préciser juste un truc quand on dit connecter deux serveurs. Parce que c'est vrai que des fois, c'est peut-être un truc qu'il faut bien comprendre, en fait, pour les gens qui ne connaissent pas le concept. Quand on parle de connecter à deux serveurs, c'est deux serveurs externes à Coolify où vos applications vont tourner, en fait.
Exactement. C'est deux machines distinctes. Et c'est là où ça paraît un petit peu complexe. Mais le fait de passer, pour moi, passer en cloud, c'est vachement bien parce que ton instance de Coolify n'est pas sur ta machine qui vont exécuter... où tu vas installer tous tes applicatifs. Donc, en clair, si ta machine, elle tombe, il y a tout qui tombe, tu as tout perdu. Ton Coolify, ta machine, ton build, ton run, tu as tout. Tu as tout dessus. Donc, séparer les pouvoirs, et de bien en fait, séquencer tout, c'est hyper important. Après, pour tester, objectivement, tu mets ton Coolify sur ta machine directement et tu installes toutes tes apps dessus et ça marche plutôt. Plutôt facile.
Après, c'est bien. Moi, j'ai trouvé que le cloud, déjà, c'était accessible au niveau tarif. Et c'est aussi une façon, moi, je trouve que c'est une façon de soutenir le projet, en fait.
Exactement. Ouais. Exactement. Exactement. Et complètement. C'est vraiment, en tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Et pour lui en fait, pour les ressources, il dit 2 CPU, 2 mémoires.
2 gigabits.
2 gigabits de mémoire et 30 gigas de storage pour héberger toutes tes images. Après, plus tu vas mettre des applicatifs dessus, plus ces applicatifs vont croquer de la puissance et donc il faudra une machine un petit peu plus puissante. Si tu es sur un VPS, tu as juste un slider à pousser pour upgrader ta machine. Si tu es sur une barre métal, là, pour le coup, il ne faut pas se gourer parce que tu ne peux pas scaler automatiquement. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Mais voilà, si vous mettez une machine avec 8 gigas et 4 CPU, vous pouvez faire... Lui, il l'annonce comme... on peut faire tourner 3 applications Node, 4 sites statiques, plausible application pour les analytics, un truc de monitoring, quelque chose, 3 dB de Redis et 2 de PostgreSQL. Donc c'est quand même assez conséquent. Et justement, on y vient où en fait. On va pouvoir installer n'importe quel applicatif depuis son Git. Donc on va brancher, en fait, on va connecter Coolify avec son GitHub ou son Bitbucket ou je sais pas quoi, enfin un gestionnaire de Git.
Merci.
Exactement. Et il va automatiquement prendre le code source, il va builder l'application. Et il va l'instancier et donc nous donner une URL classique. Il va même faire les PR. Donc, c'est une fonctionnalité qui était plutôt intéressante sur Netlify ou Vercel, où dès qu'on fait une pull request, on peut automatiquement monter cette pull request pour avoir une sorte de preview. Donc, ça, c'était un truc super intéressant. Et ça, Coolify le gère.
Ouais, ça c'est cool d'avoir tu lances une PR, ça te génère un truc et t'as une URL pour accéder à cette pull request pour vérifier si c'est OK, machin. Et ça c'est une des forces d'ailleurs de tout ce qui est Vercel, Netlify et compagnie, parce que c'est hyper pratique quand tu travailles en équipe et c'est génial que ça le gère, quoi.
Bah ouais. Et ce qui est super bien, c'est que là tu vas avoir tout ton back et ton front dans la même interface, parce que t'as OK, mais le front il est sur, on va dire, Heroku, sur Vercel, et le back il est sur Scalingo. En fait là tu vas pouvoir tout héberger, le front et le back sur Coolify. Si t'as déjà un système avec où t'as déjà containerisé ton applicatif, tu vas te connecter à ton image Docker, à ton image registry. Tes images sont stockées là-dessus, il va les pull, il va les monter directement. Donc toute la partie Docker, Docker Files, Docker Compose, tu vas pouvoir en fait utiliser directement tout cet écosystème dans Coolify.
Ok.
Et un autre truc qui est aussi super sympa, c'est que je sais pas si tu te rappelles, moi j'utilise plus ça maintenant, mais les 6 panels.
Ah oui, j'en utilise encore.
Et en fait, tu avais un espèce de one-click install. C'était un espèce de store, en fait, où tu faisais un one-click install et tu avais tout qui s'installait automatiquement. Et en fait, Coolify, ils ont fait exactement la même chose. En fait, avec plein d'applicatifs, mais aussi des bases de données. Ce qui fait que tu veux installer un Redis ou un MongoDB ou un Postgre, un ClickHouse, toutes les bases de données qu'on connaît classiques, tu le fais en one click. Tu fais one click, comment tu l'appelles, tu tapes ton nom et tu fais deploy et tu as une base de données qui est instanciée. Et donc ça, c'est juste, c'est super appréciable parce que ça peut vite être très compliqué de gérer des bases de données. Donc là, ça se fait en...
J'avais vu qu'il y a plein d'autres trucs. Il y a plein d'autres trucs aussi. J'ai vu qu'il y avait Millichurch aussi.
Exactement.
Donc là, plein d'autres trucs.
Exactement. Là, je parle de bases de données, mais tu as toute la partie applicatif, qu'on connaît. Donc, tu veux mettre un Meli Search pour faire du full text search, bam, tu cliques en one click, ça se fait. Tu veux mettre des analytics via Plausible, bam. Et on va dire n'importe quelle image Docker, tu vas pouvoir la monter automatiquement ou un Docker Compose. Et ils ont même, dans le GitHub de Coolify, ils ont une sorte de... Alors non, c'est pas app, c'est peut-être dans des exemples, je sais plus. En fait, ils ont des templates, templates. Ah, template. Et là, en fait, tu vas avoir en fait tout tes Docker Compose avec tous les services. Donc, tu veux installer un Directus, tu veux installer un Ghost, tu veux installer un Grafana avec Postgres, tu veux un Jellyfin. Enfin, voilà, tu as tout un écosystème où tu vas pouvoir en fait gérer toi-même tes Docker. Mais même si on n'est pas développeur, en fait, via tous ces templates, bah, tu vas pouvoir les installer en fait en one click. Et donc ça c'est super confortable pour quelqu'un qui n'a pas une expertise de DevOps. Voilà, on retrouve en fait le côté GUI, donc une interface graphique pour gérer ses serveurs, installer des services en one click.
Fais voir un peu ce qu'il y a dedans là, dans ces YAML, dans ces deux. Exemple pour voir. C'est on a quoi service, image. Il va chercher une image, environnement, volume. Ouais, c'est des confs Docker quoi.
Exactement. C'est des Docker Compose directement.
Donc ça veut dire que fur et à mesure du temps, en fait, on va avoir de plus en plus de services disponibles à installer en one click.
Et je te rappelle que c'est open source. Donc si toi tu as un service
et tu veux mettre ton
service et le rendre disponible sur Coolify pour toute la communauté, tu respectes les guidelines et les conventions et ta pull request elle sera mergée et donc tu donneras accès à ton service à tout le monde.
Est-ce qu'on peut dire que Coolify c'est un outil no code pour gérer ton serveur?
No code. Alors,
là je te taquine un peu.
Ouais, c'est du no code si tu veux, mais si tu veux, enfin, il y a plein de codes et si tu veux, pour moi, c'est vraiment une interface graphique en fait. Tu vois, tu viens piloter tes serveurs. Mais dans ce cas-là, Heroku, c'est du no code. Tu vois, enfin, si tu veux. Mais
on pourrait se qualifier de no code entre guillemets parce que je déteste ce terme, mais bon, j'ai jamais trouvé un truc mieux que ça. Mais c'est vrai que quelqu'un de non technique dans une société pourrait s'improviser gestionnaire du serveur avec ce système sans être forcément développeur, tu vois. Il va déployer des trucs.
Après, il faut
quand même des connaissances.
Il faut quand même que tu comprennes le mécanisme de ton instance, de toutes ces variables d'environnement, les connexions.
T'as
quand même un petit peu de boulot, quoi. Et un truc qui est sympa aussi, c'est que tu vas pouvoir gérer tes noms de domaine directement depuis Coolify. Et il va gérer en fait toute la partie SSL, donc le certificat qu'on fait souvent avec Let's Encrypt ou des services équivalents. Mais toute la partie HTTPS en fait va être gérée et renouvelée automatiquement, la même manière que le fait Vercel et Heroku, ils le font pour nous. Là en fait, Coolify va le faire aussi. Il va même aller encore un petit peu plus loin parce que en fait, tu vas pouvoir lui donner un wildcard domaine. Donc par exemple étoile.dev par exemple. Et en fait, à l'intérieur de ton Coolify, tu vas pouvoir spécifier tous tes sous-noms de domaine. Et en fait, sous le capot, ça utilise Traefik, qui est en fait un espèce de proxy qui va faire l'administration et la redirection vers les bonnes instances et les bonnes ressources. Donc ça c'est assez facile et on n'a pas besoin d'être un cador pour utiliser ça. On va faire une déclaration auprès de notre gestionnaire DNS Si vous hébergez votre site, enfin, ou voilà, vous avez acheté votre nom de domaine chez OVH, bon, bah, vous lui donnez, vous rentrez une ligne, vous pointez vers le serveur de Coolify, et c'est Coolify qui va reprendre la main sur la ventilation des sous-domaines et tout ça. Donc, ça, c'est assez confortable.
Ouais, 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 carrément. On va revenir quand même sur, parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, on a parlé de comment mettre un serveur pour héberger Coolify et tout ça, mais après, comment ça se passe en fait à partir du moment où j'ai un Coolify, je suis dans l'interface, qu'est-ce que je dois faire? Je dois rajouter un serveur, je vais acheter un serveur chez, un provider, n'importe lequel, et je le branche à Coolify, et après, il se passe quoi en fait? Il va tout installer Alors... dessus, etc.
Oui, en fait, c'est, là, sur l'installation, en fait, tu es obligé d'installer ton Coolify quelque part.
Voilà, donc tu prends Cloud. Cloud.
Ou, et là, tu n'as pas à l'installer. D'accord.
Voilà. Donc, à partir de là, j'ai l'interface. Je fais quoi?
Là, j'ai mon... Bah, en fait, une fois que tu as ton interface, c'est fini. Après, c'est comme
ouais,
si
tu étais je vais chercher
sur ton... C'est comme si tu étais sur ton Heroku. Pour moi, en fait, la difficulté, elle est plutôt en amont, au moment où tu veux prendre ton serveur, en fait. Donc, on revient sur les deux possibilités. Soit tu mets ton Coolify sur ton serveur, soit tu mets ton Coolify sur leur système à eux et tu dois brancher ton serveur. Donc, dans ce cas-là, tu vas en fait connecter ton serveur via une clé SSH. Ton opérateur qui t'a fourni ta machine, en fait, va te dire « Ok, donne-moi une clé SSH. » Comme ça, tu vas pouvoir accéder à ce serveur via ta clé SSH. Dans ce cas-là, tu viens alimenter ta clé SSH dans Coolify pour que en fait ils puissent accéder en fait à la machine distante et en fait lui il va en fait piloter ta machine à distance. Donc en fait une fois que tu as mis ton serveur et que tu as rendu ton serveur disponible, le mieux c'est avec une clé SSH, tu donnes cette clé à Coolify et c'est Coolify qui va piloter ta machine à distance.
Ouais, c'est ça. En fait, dès que, enfin, c'est pareil. Il y a beaucoup de systèmes qui fonctionnent comme ça. Moi, j'utilise Forge en ce moment. Je teste un peu Forge. C'est le même principe. Okay. Tu branches ta machine, ton serveur que tu as pris chez DigitalOcean, n'importe quoi, Infomania, ce que tu veux. Et Coolify prend la main dessus, en fait, et va commencer à installer des choses, machin, traffic, tout ça, tous les serveurs qu'il y a besoin, etc. Et à partir de là, il a la main dessus et toi, tu n'as plus à t'en occuper, en fait. Tu t'en occupes que par Coolify, en fait. Et c'est, voilà.
C'est trop bien. C'est, ouais. c'est juste trop bien. Évidemment, tout ce fichier de config en fait va être auto-sauvegardé, ce qui veut dire que parce que moi j'ai crash testé le truc où en mode ok vas-y je coupe la machine. Donc j'avais installé un VPS, je coupe la machine, qu'est-ce qui se passe? Moi je vais voir. Et je coupe la machine, je relance la machine. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah, il n'y a rien qui auto-pop. Ah, ça, c'est merdique. Par contre, en fait, je me reconnecte en SSH à ma machine, je relance la commande d'install, il voit que c'est déjà tout installé et en fait, il redémarre tout le système. Coolify se redémarre, mais comme il a enregistré toutes les actions, tout, il redémarre aussi tous mes applicatifs et mes bases de données.
D'accord.
Ce qui fait que si ta machine, elle s'éteint, pour X raisons, vu que tout est sauvegardé et en fait, dans les Docker et tout ça, tu peux, tu peux enregistrer des données persistantes. Et donc, en fait, il vient enregistrer toutes tes infos de config qui sont spécifiques à Coolify et en fait, toutes tes connexions à GitHub, tes connexions à ton serveur, ta configuration, qu'est-ce que tu as notifié, qu'est-ce que tu veux être, voilà, toute ta configuration, elle est dans un énorme fichier qui, lui, est stocké en persistant dans ta machine, ce qui fait que quand tu redémarres ta machine, si pour X raison elle a dû s'arrêter, tu redémarres ta machine, tu te reconnectes en SSH, tu relances la commande Coolify et tout réapparaît et tout est repopé instantanément.
Ok, ouais, mais il faut relancer Quillify à chaque fois. Ça, faut penser à faire ou mettre un système automatique
De démarrage. En fait, quand tu viens tester, bah, tu dis ouais, comment on fait ? On peut pas faire un run cool.
Quillify run.
Non, ça marche pas. Et pour le coup, dans la documentation et sur, il y a un super Discord qui est assez actif, hyper réagent, où les gens réagissent assez bien. Et on voit la question comment je fais pour relancer mon Quillify. Mm-hmm. Et là, en fait, on relance la commande et comme ils voient que tout est déjà installé, bah ils passent à la commande suivante et à la fin, en fait, bah ça pop start, quoi, tu vois. Donc ça, c'est plutôt...
C'est assez rare que ton serveur s'arrête quand tu es chez un provider. C'est plutôt... à moins que ça prenne feu, mais... c'est déjà arrivé. Mais raison de plus d'utiliser cloud où tu n'as rien à faire.
Okay. Ben ouais, exactement. Exactement. Un autre truc qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, moi, c'est parce que j'héberge une petite app en back-end et on veut, en fait... avoir un log tout simplement. Et donc sur Heroku on a des logs, sur Elsewhere on a des logs, par contre sur Netlify ou sur Vercel on n'a pas toujours des logs, où ils nous disent bah oui il faut utiliser DrainLog et machin, mais c'est payant donc il faut payer et donc c'est pas top. Et sur Quillify, il a dit OK, on va faire un drain log. Donc, c'est vraiment toutes les entrées et toutes les sorties de ton service.
D'accord.
Et tu vas pouvoir les envoyer via un service. Tu vas pouvoir les envoyer automatiquement sur un service tiers, donc Axiom ou New Relic. Pour le coup, il a prévu d'en ajouter d'autres. Perso, je suis passé sur Axiom c'est super fluide parce que. Gérer des logs, pouvoir faire des recherches dessus, pouvoir faire des dashboards, tout ça. Soit on fait tout à la mano et on se le fait nous-mêmes, sauf que tous les logs en fait sont stockés sur ta machine. Donc toujours dans ce même délire de OK, la machine tombe, j'ai rien, j'ai pas de matière en fait. Que là, de venir externaliser les logs, c'est vachement plus intéressant et pour des prix très 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 accessibles. Et on a un dashboard et on voit combien de requêtes, si j'ai eu des 500, si j'ai eu des 401, si j'ai eu tout ce que j'ai voulu loguer, je vais pouvoir le voir et l'afficher directement. Et donc là, je me connecte. En fait, je mets ma clé API de Axiom, je la mets sur Quillify. Et ce qui fait que je peux streamer en fait, l'intégralité des logs de mon applicatif vers un service tiers.
Ok, cool.
C'est trop bien. Donc,
c'est trop bien. On va peut-être parler un peu du prix, quoi, parce qu'en fait, c'est aussi l'intérêt. C'est d'utiliser Quillify soit en cloud, soit auto-hébergé, mais aussi du prix des serveurs qu'on peut brancher sur Quillify. Parce que moi, j'ai testé personnellement le service cloud de Quillify et j'ai branché un serveur. Et c'est vrai que j'avais mis un Digital Ocean. Ça commence à $5, je crois. Là, dernièrement, j'ai trouvé aussi chez Infomaniac, ils ont des VPS qui sont dans les 3 euros, je crois, dans les prix. Donc évidemment, plus vous avez besoin de puissance, plus ça va augmenter. Mais c'est vrai que sur des petites applications, des choses comme ça, ça peut des fois largement suffire. Et ça nous fait quand même réduire pas mal le prix en fait, de nos applications qui tournent. Ça peut vraiment coûter pas grand-chose par mois, en fait.
Et ouais, parce que tu vois, si on a par exemple un petit side project, ok, c'est que 7 balles par mois ou 5 balles, ok. Mais si on a plusieurs petits side projects, à la fin, ça peut quand même coûter de l'argent. Et donc, à mon sens, c'est beaucoup plus facile de mettre un petit serveur à 5 ou 7 balles pour gérer tout ça. Et comme ça, en fait, on peut mettre autant de bases de données, autant de services qu'on veut. Alors, bien sûr, dans la limite de la machine. Et ce qui est bien aussi, c'est, on n'en a pas parlé, mais on disait que sur Vercel, quand tu gères tes groupes, tes organisations, bah, tu vas payer par tête 20 balles. Là, en fait, tu vas pouvoir faire la même chose. C'est-à-dire, toi, tu es administrateur de tout, mais tu veux créer, en fait, par exemple, une équipe double slash. Bah, moi, je t'invite et tu n'as accès que aux apps ou à l'ADB qui font partie de l'organisation double slash. Donc, en fait, on peut gérer différentes organisations. Il y a des ressources. Donc, en fait, on va pouvoir administrer tout ça directement au sein de Coolify. Et ça, avec une machine qui coûte pas très cher, que vous avez, qu'on peut héberger un peu n'importe où, quoi.
Ouais, c'est clair. Ça, c'est une grosse économie par rapport au nombre de personnes qui peuvent être dans l'équipe, tout ça. Et aussi, tu vois, quand je parlais de prix, c'est que, par exemple, si tu pars sur un MiliChurch, tu veux le cloud MiliChurch, je crois que c'est 20 balles par mois.
C'est 20 balles par mois, ouais.
Ouais, voilà. Et ben là, avec Coolify, tu prends un truc à 5 dollars. Tu mets un petit serveur à 5 dollars. Pour 10 dollars par mois, tu installes un Coolify. Voilà, et ça marche, quoi.
MiliChurch.
Et ça fonctionne. Et tu as une recherche MiliChurch qui fonctionne super rapidement en quelques clics. Voilà.
Exactement. Exactement. Sur ta machine, tu pourras peut-être mettre autre chose que ton MiliChurch.
Ah oui, tu mets autre chose en plus.
Ouais. Tu vois,
le besoin au niveau des recherches, mais si c'est un petit site où il y a quelques recherches, par exemple double slash, imaginons, on n'a pas énormément de recherches, on va dire, dessus, ben, ça peut largement suffire. Un truc à 4
Bien
dollars.
Sûr. Totalement. Pas de problème. Totalement. Ouais. Et pour le coup, si demain, souvent aussi, t'as une idée de lock, c'est-à-dire que t'es un peu bloqué chez ton hébergeur, là, pour le coup, c'est juste une machine. Donc, ce qui veut dire que ta config, elle est sur Coolify. Et donc, si demain, Digital Ocean a des meilleurs tarots où tu veux passer chez un autre provider, en fait, toute ta config, elle est sur Coolify. Donc, tu vas juste prendre une machine et que tu vas administrer comme tu veux et tu vas mettre la puissance que tu veux dessus. Mais tout le travail que tu as fait, tu n'as pas à le refaire sur un nouvel opérateur parce que ton opérateur, c'est Coolify et tu viens acheter que de la puissance machine, en fait. Donc, que tu sois chez AWS ou Digital, OVH ou ce que tu veux, je m'en fous. Tu peux faire ta migration beaucoup plus facilement.
Ouais. Il faut rester français, enfin européen pour quand même.
Ouais, ouais.
Après, il y a un dernier truc peut-être, on n'a pas parlé encore, je crois qu'il y a un système de backup.
Exactement. En fait, tu as un système de backup où...
Important quand même de sauver son application.
Quoi ? Des backups ? Mais non, ça sert à quoi les backups ?
Quoi ? Mais surtout non, la base de données, tu sais.
Exactement. Et alors, pour le coup, sur les backups, j'arrive pas à trouver la doc, mais en fait, tu vas pouvoir brancher ton S3, donc qui est alors,
service
attention...
de stockage.
Ouais, attention, il y a des petits malins qui ont dit « Ouais, mais en fait, tu peux installer un truc qui s'appelle Minio, qui est en fait une gestion d'un bucket S3 open source, et tu peux le mettre sur Coolify. » Là, tu dis « Bah ouais, mais mec, t'as ta config Coolify, ton backup, mais tout est sur la même machine. » Donc, non.
Première chose, ne jamais mettre les backups sur la même machine.
C'est le truc basique. Donc, en fait, tu prends en fait un document storage classique compatible S3. Donc, tu peux prendre sur AWS, sur Digital Ocean ou pour information, Scaleway français offre 75 gigas gratuitement.
Ouais,
donc, allez faire un tour. Je dis ça, je dis rien, mais c'est quand même cool.
Cliquez sur le code avec le... Non, on n'a pas.
Ah ouais, le lien affiliation en bas. non, mais pour le coup, Scaleway français est S3 compatible. Et en fait, tu viens lui donner ta configuration S3 et en one click, tu dis, est-ce que tu veux faire un backup de ma DB? Hop, one click, export sur S3. Ce qui fait que selon la périodicité que tu as choisie, donc un cron classique, tu vas faire en fait ton backup de ta DB, de ton Redis, et de ta config aussi, tu vois. Ce qui fait que pour X raison, ta machine est par terre, tu as perdu ta config, bah, tu branches une nouvelle ressource, tu réuploades ton JSON config et chaque aboum, tu as tout ton applicatif qui est, et toutes tes connexions qui sont faites. C'est juste énorme. Hein.
C'est un élément qui est primordial en fait, hein, de faire des backups de DB quand tu as tes propres serveurs, parce que c'est vrai que quand tu as des systèmes, des SaaS que tu utilises, souvent il y a des backups, tout ça, machin. Mais à partir du moment où tu passes ton propre hébergement, là il faut gérer les backups. Et si c'est simplifié en quelques clics, c'est la base.
Exactement. Et pour le coup, on sait hein, de manière générale que vraiment le goulot, enfin le d'étranglement et le bottleneck, je sais plus comment on dit en français, mais l'entonnoir qui va poser problème, souvent c'est la base de données. C'est la base de données. Donc, et toute la valeur du business, elle est dans la donnée. C'est trop, trop important. Et on sait aussi que si on a une action à faire, on ne le fait pas. Donc, il faut que ça soit automatique. Et il faut que ça soit à périodicité qu'on ait choisi, mais super important d'automatiser en fait cette fonction-là.
Ouais, donc on peut mettre des crons.
Exactement.
Voilà.
Exactement.
Nickel.
Et pour le coup, c'est trop bien. Enfin, vraiment, l'expérience est super, super fluide, quoi. Donc, tu vois, un push to GitHub, enfin, tu vois, le push to deploy, voilà, tu connectes ton GitHub, ça fait tout automatiquement. En fait, j'ai l'impression, en fait, de redécouvrir la fluidité, l'émerveillement qu'on avait quand on était sur Netlify ou sur Vercel. Et voilà, les premières fois qu'on a utilisé ça, putain, c'est trop bien, ça fait tout seul. Sauf que là, en fait, t'as un petit peu plus de plaisir parce que c'est ta propre machine et tu gères toi-même le truc. Et après, on n'a pas parlé, mais t'as des webhooks. Donc, tu peux aussi différencier ton... Tu peux avoir qu'un serveur pour faire ton build, ce qui fait que tu ne viens pas entamer de la puissance de calcul pour ton run de ton applicatif. Tu vas construire ton applicatif sur un autre serveur. Enfin voilà, tu peux t'y déporter sur GitLab.
Webhook pour appeler via un CMS quand tu fais une mise à jour, appeler via un webhook et relancer un build, voilà justement. Enfin tout est intégré en fait, tous les basiques sont là quoi.
Exactement. En fait, le B.A.B.A. de ce qu'a fait Heroku ou Netlify ou Vercel, tout le B.A.B.A. est déjà intégré. Donc, il a comblé le gap avec une techno open source. Enfin, c'est monstrueux ce qu'il a fait. Okay. C'est vraiment top. Donc,
vraiment... Donc, on avait une question pour les auditeurs. est-ce que vous êtes intéressé par une vidéo workshop comme on a déjà fait pour Nitro.js sur Coolify où on vous montrerait comment ça fonctionne, le dashboard, éventuellement brancher un serveur, etc. Voilà.
Là, en fait, on a vraiment fait on a caressé la surface des choses, on a présenté la solution. Par contre, si vous voulez plus quelque chose de didactique, vraiment un workshop, comment on utilise Coolify, comment on branche notre serveur, comment on gère les noms de domaine, comment on vient brancher notre GitHub, dites-le nous dans les commentaires. Évidemment, un petit pouce, un petit commentaire en disant « méga chaud, vas-y, sors le workshop ». Et donc, dans ce cas-là, on se mettra en œuvre et on mettra et on fera le workshop directement. Cool. À très vite, Patrick.
À bientôt. Très rapidement.
Ciao, ciao. Merci à tous. Ciao,
merci,
ciao.
Ciao.
Retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, les références évoquées durant l'émission.